Monsieur Jean-Paul Torres, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire un livre fort intéressant qui s'appelle « Pucerons, mildiou, limaces, prévenir, identifier, soigner bio ». Quel programme ?
Bah c'est un peu le programme de ma vie de jardinier, parce que j'avais envie d'écrire le livre dont j'avais besoin.
D'accord.
En tant que jardinier.
Et vous vouliez faire partager ce besoin personnel à l'ensemble des jardiniers qui ont les mêmes besoins que vous.
Et puis mon expérience, parce que bon, malheureusement, maintenant, j'ai déjà quelques années de jardinage derrière moi. Donc ça veut dire beaucoup d'expérience accumulée, beaucoup de notes prises, et puis en même temps beaucoup de réponses apportées aux questions des jardiniers à travers mes collaborations à différents journaux. Donc ça fait beaucoup d'informations, et puis l'information c'est fait pour servir, donc voilà, ça se retrouve dans ce bouquin.
Très bien, en effet. J'ai lu d'ailleurs un article sur vous, vous étiez, vous parliez de beaucoup de notes, quelqu'un qui notiez énormément l'ensemble des données, par exemple l'émergence des bourgeons à telle date, enfin la pluie qu'il a fait dans la saison. Vous êtes venu, comment ça s'appelle cette observation comme ça de nature au jour le jour?
Ça s'appelle la phénologie, bon c'est un bien grand mot. En fait moi j'ai tenu le journal de mon jardin, avec à la fois ce que j'y faisais au jour le jour et puis en même temps les observations. Hein. La phénologie c'est l'observation de ce qui se passe dans la nature, les floraisons, l'arrivée des oiseaux, la ponte des grenouilles, etc. Et puis je me suis rendu compte, enfin c'était ça l'objet de l'article, que mes observations étaient tout à fait raccord avec le changement climatique.
D'accord. Donc, on va y revenir justement à tout ça, parce que votre livre est un livre de conseils, un livre, comme vous le dites, hein, d'observation, de réflexion, de refus d'utiliser des produits qu'on appelle maintenant, de façon très correcte, phytopharmaceutiques,
ouais,
pour moins effrayer les gens. Et vous avez donc constaté des choses. Par exemple, au niveau de ce dérèglement climatique dont vous parlez, quels sont les phénomènes les plus remarquables que vous avez constatés ?
Le phénomène le plus remarquable, c'est les floraisons printanières de plus en plus précoces. C'est-à-dire qu'en gros, le paysage que je vois dans mon jardin en ouvrant les volets en ce moment, c'est celui que j'avais vers le 10-15 mai au début des années 1980.
Alors c'est surprenant parce que cet hiver j'ai eu l'impression qu'il a beaucoup plus neigé que d'habitude, qu'il a fait, on va dire, plus froid que l'année dernière. Et est-ce que ça a une incidence sur la végétation ou cette avancée que vous avez constatée a quand même perduré cette année ?
Alors par rapport à l'an dernier, l'avancée était à peu près la même. Là on en a un petit peu perdu parce que ce début de printemps a été assez froid, enfin dans ma région,
oui,
de Normandie. Cela dit, ce que vous dites est exact, mais en même temps c'est assez compliqué parce que il y a des variations interannuelles. Effectivement, il y a des années qui sont plus ou moins froides, d'autres plus ou moins chaudes, mais en fait les climatologues s'intéressent aux tendances, hein,
oui,
c'est-à-dire les courbes à long terme avec, mm-hmm. Bon, donc ça veut dire qu'il faut pas trop tenir compte de l'impression qu'on a à un moment donné, et il faut s'en tenir aux chiffres et aux moyennes.
D'accord. Alors justement, là on a vu que ce bouleversement climatique ramenait un printemps de plus en plus précoce, enfin du moins une avancée dans le calendrier des floraisons et autres.
Ouais.
Et au niveau de la pression pour les maladies cryptogamiques ou par rapport aux insectes, est-ce qu'il y a là aussi des constatations qui sont faites ?
Il y a des constatations, elles sont plus difficiles à faire parce que autant c'est facile de noter une date, autant c'est difficile de faire des statistiques sur les attaques de pucerons, les attaques de mildiou, etc. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le changement climatique a une incidence sur la température, c'est évident, et une température plus élevée favorise les insectes. A priori, si on a des épisodes de canicule, bah, ça ne peut que favoriser les attaques d'insectes. En plus, ça fragilise les plantes. Donc ça fait deux éléments qui sont un petit peu défavorables. En ce qui concerne les maladies, les maladies sont surtout apportées par l'humidité. Et bon, si on a des étés plus secs, qui semble devenir la règle dans nos régions, les maladies seraient moins virulentes. Enfin bon, c'est encore un peu prématuré hein, pour faire des conclusions.
Alors bon, pour quelqu'un qui se lance dans le jardinage ou qui a un jardin depuis quelques années et qui soit décide d'arrêter totalement, soit souhaite continuer à ne pas traiter, s'il le fait déjà, qu'est-ce que vous lui conseillez comme, principe de base ?
Oui, il y a un certain nombre de choses à savoir, mais des choses souvent très simples, je dirais même de bon sens. D'abord, commencer par choisir des plantes qui sont vraiment adaptées au sol et au climat. une chose qu'on a tendance à oublier, parce qu'une plante qui n'est pas adaptée sera plus fragile et plus facilement attaquée par les ravageurs, les maladies.
Donc point trop d'exotisme.
Pas trop d'exotisme, hein. Ça me fait un petit peu peur de voir arriver des palmiers, des oliviers, des citrus un petit peu partout. Bon, peut se faire plaisir, mais il faut en même temps savoir qu'on prend un risque.
Oui. Ou alors ce sont des pessimistes, ils optent pour le bouleversement climatique et un réchauffement.
Voilà, mais on peut absolument, mais bon, ça me paraît quelquefois un petit peu exagéré.
Oui, c'est dommage de voir des oliviers souffrir comme ça.
Voilà, ouais. Puis bon, je trouve qu'à chaque région, sa végétation, donc faut peut-être pas trop mélanger les genres. Bon, en ce qui concerne on a vu donc quelques conseils de bon sens, mais après on a aussi la possibilité de donner un petit peu plus d'équilibre à son jardin, c'est-à-dire de favoriser les insectes auxiliaires qui existent dans la nature. Hein, on a à peu près pour chaque ravageur ses ennemis naturels et on a les moyens. Donc ça c'est quand même décrit dans le livre, les moyens d'attirer ces auxiliaires, de les favoriser. Et puis donc, par là, de réduire le nombre des interventions qu'on aura à faire.
Oui, en effet, l'idée, c'est de mettre un biotope, enfin de créer un biotope très naturel, voilà. Qui permet de faire venir des auxiliaires utiles.
Hein. Ça, on sait le faire. Hein. Il y a des conseils très précis qui sont donnés, d'utiliser certains arbustes, d'utiliser certaines fleurs, parce que les auxiliaires ont besoin de pollen et de nectar, ils ont besoin d'abri. Tout ça, maintenant, c'est très très bien connu, et on sait exactement ce qu'il faut faire pour les favoriser.
Oui, donc il y a les insectes, il y a aussi la faune du type oiseaux, les mésanges.
Ouais. Les oiseaux sont... Alors vous parlez des mésanges, vous avez raison, c'est les oiseaux les plus, on va dire, utiles.
Oui.
Les oiseaux sont utiles, mais ceux-là sont... Ils ont la particularité d'être des acrobates et donc d'aller chercher les pucerons au bout des rameaux.
Oui.
Ils sont les seuls à pouvoir le faire. Et ça, c'est très précieux.
Oui. Et en plus, ils sont beaux à regarder.
Ah bah oui, alors moi, je suis avant même d'être jardinier, je suis ornithologue, donc vous prêchez un convaincu.
Et autre chose aussi, par rapport à tout ça, c'est de ne pas utiliser un produit parce qu'un jour, on a l'impression que des pucerons ont envahi tout d'un coup nos rosiers ou peu importe quelle culture de fèves, si les gens en font, et puis passer un produit chimique qui, lui, va tuer la faune auxiliaire en même temps que ces insectes qu'on considère comme nuisibles, alors que si on avait laissé faire la nature quelques jours, les pucerons auraient été peut-être boulottés par ces auxiliaires.
Bien sûr, faut être un petit peu patient, observer. Je crois que la meilleure façon de remplacer les produits chimiques, c'est d'avoir un petit peu plus d'attention par rapport à son jardin et à ses plantes. Souvent, quand on regarde de près ce qui se passe, on voit des larves de coccinelles à l'œuvre, on voit tout un tas de petites bestioles qui sont décrites d'ailleurs dans mon livre, et qui, si elles sont là, bah, il faut les laisser faire, et souvent c'est l'affaire de quelques jours, donc il ne faut pas non plus se précipiter. Moi je milite plutôt pour des mesures préventives, c'est-à-dire de donner à son jardin toutes les capacités de résister, et puis après de s'autoriser des petits moyens de lutte qu'on connaît maintenant, que je trouve très intelligents et qui sont pas forcément des traitements, mais on a des pièges, on a des voiles anti-insectes, on a des colliers anti-fourmis à mettre sur les arbres,
sur les troncs d'arbres,
pour empêcher l'arrivée des pucerons, parce que c'est les fourmis qui amènent les pucerons sur les arbres.
Oui, ce sont de vrais bergers à pucerons, les fourmis,
voilà,
elles profitent de leur miel.
Et ça, c'est radical, hein, ça, je peux vous dire, je fais ça tous les ans.
Et j'ai même vu qu'elles se battaient contre les coccinelles parfois, contre l'herbe de coccinelle.
Bah oui, parce qu'elles protègent leurs élevages de pucerons, les fourmis, en tuant les prédateurs de leur puceron.
C'est fou ça. Bien, écoutez, en tout cas, moi, votre livre, on y plonge et puis on a du mal à en sortir. Parfois, les photos de toutes ces maladies qu'on risque d'avoir dans son jardin et de tous ces...
Ça fait peur, non?
Ah oui, ça fait peur.
C'est comme le Larousse médical. Après,
exactement.
On a l'impression d'avoir toutes les maladies du monde.
Exactement. Bon, vous avez en tout cas une iconographie qui est très bien faite et elle saute aux yeux comme
je
ça.
Je le dirai à mon éditrice.
Voilà. En tout cas, je vous remercie pour ces conseils. Je recommande de lire votre livre et d'en faire un livre de chevet parce que c'est pas un roman, on va pas le lire d'un coup, mais en revanche, il est très bien fait parce que vous avez des glossaires en fait pour se retrouver plus rapidement.
Ah oui. Mais il a été conçu pour être consulté facilement.
Voilà. Ouais. Un index qui renvoie bien aux pages.
Ouais, ouais.
Bravo, un gros travail.
Oui.
Et merci pour nous, jardiniers, qui avons besoin de conseils pour éviter de tomber soit dans une chimie destructrice, soit dans une déprime qui n'est pas non plus très optimiste.
Allons, allons.
Merci beaucoup, Jean-Paul.
C'est moi qui vous remercie.
C'était un entretien de Jean Tonelli avec Jean-Paul Thorez, auteur du livre Puceron, Mildiou, Limace, Prévenir, Identifier, Soigner Bio, aux éditions Terre Vivante.